Alexis Gravel dans le retour. Il est de retour, maintenant dans son deuxième mandat.
Comme dans le film, il est de retour.
Oui, ben là, j'espère que vous ne faites pas peur autant que ça, là, mais le maire Bruno Marchand est en studio avec
beau
nous.
Beau gilet des expos.
Ah oui, écoute, on fait le vintage aujourd'hui. Là. C'est beau. Ils vont-tu revenir à Vin Nordique, d'après vous?
Non, je pense pas qu'ils veulent. Non, je pense pas qu'ils sont plus proches que les Nordiques.
Ni un ni l'autre.
Non.
Personne va revenir finalement.
On est dans le thème.
C'est un peu ça que vous êtes en train de dire.
Exact.
Hey, c'est une journée de budget, Monsieur Marchand, aujourd'hui. Puis souvent, c'est un peu la même chose. Le diable est dans les détails. Parce que quand on parle d'une hausse moyenne des taxes de 1,9%, le détail de ça, c'est que tu as 60% de la population de la grande ville de Québec. Que la hausse de taxes est plus autour de 3% que de 1,9.
Alors oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis là.
C'est les banlieues essentiellement parce que c'est le cœur de Québec qui gagne.
Là, c'est pas tant... Non, mais, ouais, okay, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi ça existe, cette différence-là? Et c'est la dernière année que ça existe.
C'était le temps que ça finisse d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est qu'on paye des dettes des anciennes villes. Donc chaque ancienne ville, mettons les gens de Loretteville ont fini de payer en 2022, ils payaient la dette qui était relative avant la fusion à Loretteville. Québec avait une plus grosse dette, plus importante, donc ils ont payé la dette plus longtemps. Donc, ils avaient une surprime pour payer cette dette-là jusqu'à l'année passée, jusqu'à cette année. Et dans le prochain budget, ce 119$-là n'existe pas. De là, l'écart avec l'an passé. C'est pas une question, c'est pas un choix politique, c'est juste la fin du paiement de cette dette-là qui marque des écarts.
Je comprends l'explication, mais en même temps, qu'est-ce que vous répondez, mettons, à quelqu'un qui vit en banlieue, qui a une automobile, qui trouve que c'est encore à lui de porter le gros de ce qu'on demande aux contribuables?
Ouais. Ça peut paraître comme ça, mais c'est pas la mathématique, c'est pas ça. Là. La variation, c'est sur l'an passé. Fait que c'est sûr que si, par exemple, dans n'importe quoi de ce que tu fais, tu prends une prime d'assurance, puis on te fait payer une surprime parce que tu as déjà réclamé, mais l'année où on ne te la fait pas payer, ta surprime, ton écart est avantageux. C'est juste ça. C'est que les gens de l'ancienne ville de Québec payaient une surprime depuis 19 ans, plus élevée que les autres, 119$ l'an passé, et en l'enlevant, l'écart avec l'an passé... Il est différent. Là, maintenant, on tombe dans l'égalité. Une maison à 379 000 à Charlebourg, à Val-Bélair ou à Québec est chargée le même prix, alors qu'avant, à Québec, il y avait une surprime.
Fait que l'année prochaine, on ne parlera plus de moyenne. Ça va être un...
On parle encore de moyenne, on parle toujours de moyenne, sauf que les écarts vont être beaucoup moins grands. Les écarts qui sont les plus grands, c'est quand il y a des rôles d'évaluation. Quand on adapte, quand on fait l'évaluation des maisons, on se dit combien vaut votre maison maintenant, c'est à tous les trois ans. Mais en 2022, quand on a arrêté de payer la dette pour les gens de Loretteville, par exemple, il y avait un écart avec l'ensemble des gens. Même affaire avec Charlebourg, même affaire avec toutes les villes. Quand elles ont arrêté de payer leur dette, elles ont été favorisées. Là, cette année, c'est Val-Bélair et Québec qui arrêtent de payer leur dette, qui est complétée deux ans avant ce qu'on avait prévu. Et c'est ça qui marque l'écart. Mais la moyenne, c'est pas, y a pas de trick là. Mm-hmm. Ça fait des années qu'on communique la moyenne, puis oui, il y a des gens qui fluctuent autour de ça.
Le premier budget de l'ère Marchand, c'était celui de 2022. On découvrait à l'époque que le nombre d'effectifs à la Ville de Québec avait augmenté de 413 pour passer de 5320 à 5733 personnes. Pourquoi on décide de partir dans l'autre sens, là?
Bien, en même temps, il faut regarder les détails. Il y a des parties d'effectifs qu'on augmente. On augmente de 37 pompiers, on augmente de 50 policiers. C'est des choix qu'on fait. Mais oui, on coupe 60 employés. On va couper 60 postes par attrition parce qu'on veut juguler les dépenses.
C'est des dépenses avec lesquelles on était capable de vivre dans les dernières années. Pourquoi là, soudainement, ces emplois-là, on est capable de dire on ne revient pas en dotation? Comment ça se fait que c'est quelque chose qui se fait d'une claque et que c'est pas à chaque année qu'on fait une révision?
À chaque année, on fait une révision. C'est juste que là, cette année, notre révision nous amène à 60. Mais au final, là, présentement, on obtient des responsabilités supplémentaires parce que le gouvernement nous demande, par exemple, une reddition de compte plus grande, nous oblige, par exemple, la biométhanisation.
Ouais.
C'est une obligation du gouvernement.
Les sacs mauves.
Les sacs mauves. Ça marche bien, c'est efficace, c'est bon pour l'environnement, mais c'est plus d'employés pour la ville. À partir du gouvernement... Le moment où le gouvernement dit « vous êtes obligé de faire ça, sous une forme ou sous une autre », bien, ça nous amène une responsabilité supplémentaire, donc des employés supplémentaires. Fait qu'il faut faire des choix. Les employés qu'on ajoute, en fonction de nos priorités, en fonction des
comme attentes, le bureau de projet de tramway, mettons, qu'on va doubler le nombre d'employés.
Exact. Bien, ça, c'est en fonction des priorités. Mais de l'autre côté, pour faire en sorte que la hausse, ça soit pas infinie, puis qu'on fasse pas juste hausser, bien, on coupe à d'autres endroits.
La Ville va piger 35 millions dans sa réserve pour boucler le budget. C'est 10 millions de plus que l'an passé. Faut-tu craindre une tendance?
Va-tu finir comme Lévis?
Hey non, nous autres, ça va bien. Là. Nous autres, là, la dette, elle baisse. Elle baisse en chiffre absolu. Cette année, on va enlever 9 millions à la dette, mais en plus, c'est qu'elle baisse en ratio. La meilleure façon de calculer la dette d'une ville, c'est sa dette versus ses revenus. Nous, on passe en bas des 80 %. Lévis est à 130 %. Donc, Lévis, là, s'ils prenaient tous leurs revenus d'une année, ils n'arriveraient pas à rembourser la dette. On ne peut pas faire ça. Là. Il y a des services à offrir et tout ça, mais ça prendrait plus qu'une année. Une année et 30 %. Alors que nous, on a diminué la dette. On a déjà été à ces hauteurs-là autour de 2015. Et maintenant, M. Labeaume avait commencé et nous, on a continué. On accélère le fait qu'on veut diminuer nos ratios. Et c'est ce qui fait qu'auprès de nos prêteurs, on est coté, nous autres, par Moody's. On a une bonne cote et on n'a pas été décoté. C'est qu'on gère bien les finances et que notre dette diminue.
Les 4 à 5 patinoires qui ouvriront pas cette année, c'est lesquelles?
Bien, on ne le sait pas encore. Il y a une analyse à faire.
Comment on va identifier ces patinoires-là?
Sur l'achalandage. Sur l'achalandage et sur la disponibilité de ce qui est autour. Donc, s'il y a une patinoire à proximité puis qui est facile d'accès pour les citoyens d'un quartier, on va le faire. Et on a ouvert des patinoires réfrigérées. Bien, quand on ouvre des patinoires réfrigérées, ça permet aux gens d'avoir accès à de nouvelles patinoires.
Là, il va y avoir des délais avec ça aussi, si j'ai bien compris.
Celle
là.
De Bonpasteur, elle va être ouverte la semaine juste avant Noël, comme prévu.
C'est celle de Duberger l'année prochaine qui va être retardée.
Celle de Duberger, elle est retardée justement pour faire en sorte de juguler la hausse des dépenses.
Je sais qu'on est fiers d'avoir une grande accessibilité aux loisirs à Québec, puis on le mettait encore en évidence sur les réseaux sociaux pour présenter le budget aussi. Ça va pas un peu à contre-courant de garder des patinoires fermées?
Non, mais c'est une super bonne question, t'as raison. On en a 80, plus que 80.
Je comprends.
Fait qu'on tombera pas à zéro. Mm-hmm. Mais en ouvrant des patinoires réfrigérées qui permettent un plus grand achalandage sur une plus grande période, bien, on offre des services aux citoyens. Ça donne rien si on maintient une patinoire à côté à 400 mètres pour lequel il y a 10 joueurs par jour ou par semaine. C'est une question de bien gérer l'argent des gens. Là.
Moi, il y a des mots qui me font peur, puis le mot « optimiser », ça me fait peur. Pas parce qu'il y a beaucoup de syllabes, là, je parle couramment avec des mots fluents. J'ai même compris deux ou trois phrases de Mathieu Boccoté quand il est allé à la TV. Mais « optimiser le déneigement », moi, ma question niaiseuse par rapport à ça, c'est pourquoi le déneigement n'était pas déjà optimal?
En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Là. Des fois, il y a des mots là, que tu te demandes exactement ce que ça veut dire. Là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Les villes, la ville de Québec, on a plus de citoyens, donc ça coûte plus cher. Des citoyens qui demandent des services, qui demandent d'avoir accès à des loisirs, qui demandent d'avoir accès à de la biométhanisation, qui demandent de circuler en ville.
Bon, puis quand les taxes montent, ils ont le droit d'être exigeants.
Ben absolument. Mm-hmm. Mais dans une ville, c'est différent des impôts. Il n'y a pas de ville. C'est rare que les taxes ne montent pas dans une ville. Hein, parce que l'inflation fait en sorte que si on ne monte pas les taxes, on se retrouve avec des coupures importantes.
Mais quelqu'un qui a une maison, un commerce, deux chats puis un char... Il commence à trouver ça pesant un petit peu.
Ouais. Sauf qu'à Québec, ils trouvent ça probablement moins pesant qu'ailleurs. On a amélioré, prenons le commerce, on a amélioré notre positionnement par rapport à l'environnement d'affaires. On est les deuxièmes au pays. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas augmenté les taxes comme d'autres. Vous allez voir, là, les autres villes du Québec vont augmenter, certaines villes vont augmenter à 2,5, 3, 3,5, 4 % les taxes moyens. Ça nous place dans une bonne position. À Québec, le monde commercial est dans une bonne position. Cette année, à 1,4 de hausse de taxes, c'est bon, là.
Mais cet argent-là, on va le chercher ailleurs. Le parking va coûter plus cher, le remorquage va coûter plus cher et la neige va être ramassée plus tard. C'est un peu là que je voulais aller avec l'optimisation du déneigement.
On va revenir au déneigement, mais prends le remorquage, il nous coûte plus cher. Fait que quelqu'un qui se fait remorquer, là, pourquoi ça serait à toi de payer si tu ne fais pas remorquer? C'est ça aussi, là.
Dans le fond, cette hausse-là, on veut que ça soit, j'allais dire, l'utilisateur payeur, mais c'est le remorqué payeur, dans le fond.
Mais non, mais c'est l'utilisateur payeur sur des services où ça se peut que tu aies pas besoin
de te remorquer. C'est sûr que si je ne fais pas remorquer mon char, je ne veux pas payer pour le remorquage de quelqu'un qui s'est posé parking.
Si on paye pas, si on ne charge pas à la hauteur de ce que ça coûte, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est tout le monde qui paye pour quelqu'un qui s'est fait remorquer. Alors nous, on est dans, une forme d'utilisateur payeur pour certains services, sauf les loisirs, sauf ce qui est pour les familles super important, d'avoir accès à très, très, très peu de coûts. À Québec, la plupart des choses sont gratuites, contrairement à d'autres villes, pour donner de l'air aux familles. Mais oui, sur des services comme ça, on assume que si tu te fais remorquer, tu vas payer ce que ça coûte. Revenons au déneigement.
Oui.
Ça serait le fun d'avoir le déneigement plus A, plus tout le temps. Mais ça veut dire qu'on est passé, moi, quand je suis rentré en 2021, on est passé à peu près à 60 millions de coûts, puis on approche le 100 millions.
Alors qu'on n'a pas eu les pires hivers depuis que vous êtes en poste, là?
On a eu quelques hivers parfois problématiques dans certaines périodes, mais c'est vrai que sur la globalité, on n'a pas eu l'hiver de 2008 où on avait eu 4,5 mètres de neige, là.
Ça aurait l'air qu'on s'enligne pour un hiver où, dans la première moitié, à tout le moins, il va y avoir énormément de précipitations.
Ouais,
c'est ce qu'on nous dit.
Du vortex polaire qui est pogné à quelque part, mais pas ici. Qu'est-ce qu'on fait? On veut faire en sorte que ces dépenses-là on offre un bon service, mais que ça ne devienne pas 120, 150 millions, parce qu'au final, c'est sur le compte de taxes que les gens le payent. Alors, ça veut juste dire, on continue de gratter, on continue d'offrir ce service-là, mais oui, il y a des moments où on ramassait la neige, mettons, à 5 cm de tombée, mais on va peut-être passer à 7. Les gens vont... C'est pas le chaos, là. On va pas laisser la neige dans la rue 3 semaines, mais on va se donner des barèmes qui nous permettent d'économiser un peu.
Est-ce qu'on va se retrouver dans des situations dans certains secteurs, parce que je sais que c'est des sujets très populaires à la radio, entre autres, là, où la piste cyclable va être déneigée, mais que nous autres, on va être dans slush, soit sur le trottoir à gauche ou sur la rue à droite?
Mais ça, là, ça c'est assez mal compris. Puis t'as raison, ça peut être populaire d'en faire un débat, là. Il n'y a pas de priorité donnée aux pistes cyclables. Les pistes cyclables ne sont pas des priorités A1. Là. Les priorités A1, c'est des rues, c'est des routes qui donnent accès aux grandes institutions, hôpitaux, écoles. On déneige ça en premier, les côtes, parce que quand tu perds une côte, c'est problématique.
À Québec, on a déjà perdu des côtes à quelques reprises. Il a fallu qu'on change de stratégie, d'ailleurs.
Bien, c'est déjà arrivé dans le passé, effectivement.
Dans le temps de la bombe.
C'est vrai, c'est à cette époque-là.
Mais donc, on a des priorités. Les pistes cyclables ne sont pas une priorité. Des fois, les gens nous sortent une photo en disant « Hey, la piste cyclable est déneigée, oui. La route ne l'a pas été. Bon. » Mm-hmm. Il faut comprendre là, que quand il y a une tempête de neige, celui qui déneige la route et celui qui déneige la piste cyclable, c'est pas le même. Il passe pas au même moment. Là. Fait que ça se peut que si tu prends une photo après que celui qui a déneigé la piste cyclable vienne de passer, tu dis « Hey, on a une priorité sur la piste cyclable. » Il n'y a pas de priorité sur les pistes cyclables. Elles sont déneigées comme des routes qui permettent de se déplacer, mais c'est pas les priorités en eux.
Puis il n'y aura pas de changement sur cette vision-là ou cette façon-là de faire les choses, même en mode optimisation.
Non, puis le but, là, c'est déneiger les axes principaux qui permettent d'avoir accès aux services, notamment d'urgence, qui permettent aux véhicules d'urgence de passer et de répondre aux besoins, que ce soit police et pompiers. Et après, on passe aux priorités 2 ou priorités 3. Les pistes cyclables ne sont pas des priorités 1.
Vous avez eu de la visite hier à l'Hôtel de Ville. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, au point où je me suis posé la question s'il y a eu besoin du Google Maps pour le trouver.
Il habite en face.
Le premier ministre.
C'est vrai, il est en face.
Le premier ministre François Legault. Est-ce que, parce qu'on le voit, il est très, très bas dans les sondages, il a besoin de faire des bons coups, il a besoin de faire des belles annonces. Est-ce que vous voyez un changement d'attitude quand vous rencontrez François Legault là? Comparé, mettons, à il y a 2 ans, non. 3 ans ou 4 ans?
Non. Sur le plan de la bonhomie, de la relation, ça a toujours été...
Au niveau de l'ouverture à négocier des choses?
Ben, il n'est pas plus qu'il l'était.
Non.
Parce qu'ils sont dans un contexte économique super compliqué. Là.
Pourtant, hier, ça semblait tellement simple pour lui, puis les financements, puis ça va bien aller, puis on va travailler ensemble.
Mais je pense qu'il était sincère. Ce que je dis, c'est que c'est pas vrai que c'est facile pour lui présentement dans le contexte de l'état des finances du Québec de dire « Hey, je vais dire oui à tout ». Ça suppose de prioriser... Ça suppose de voir comment on peut faire pour aller chercher de l'argent. Il a de l'ouverture. Il a le goût de travailler avec nous. Il souhaite. Il a toujours cru à la Ville de Québec, sincèrement.
Ah oui?
Oh oui. Mais après ça, c'est des choix, c'est des priorités. Et là, dans le contexte budgétaire actuel, je ne vous mentirai pas quand l'argent va pas tomber du ciel.
Là. Fait que le rapport de force n'a pas vraiment changé dans votre relation. Là.
Ce qui change, je pense, c'est que là, je pense qu'il y a un certain rapport de force qui change par l'élection, mais ça donne pas de permis de tout faire, là. L'état des finances publiques après l'élection du maire de Québec ou l'élection de la mairesse de Montréal n'a pas changé au Québec. Là. Fait que les moyens sont limités.
Concrètement, avez-vous réussi à vous entendre sur quelque chose au-delà des grands principes?
Ben, on n'avait pas. Hier, c'était pas l'objectif de négocier une chose.
Ouais.
On a regardé c'était quoi les pistes sur lesquelles on voulait travailler. Il connaît mes demandes, il sait vers où on va. En même temps, avec le premier ministre du Québec, c'est pas là que tu rentres dans les détails. Là. Lui, il en gère une tonne de choses. Fait qu'après ça, ça va être avec son ministre des Finances, ça va être avec certains ministres.
Mais quand on attaque un dossier comme celui du troisième lien, peut y aller d'un détail? Qu'est-ce que vous avez demandé concrètement?
Mais on ne peut pas s'attendre que le premier ministre connaisse le fin détail du troisième lien.
Mais c'est quand même un de ses dossiers forts pour essayer de reconquérir la région de Québec.
Vous avez tout à fait raison. Cependant, je vous le dis, moi, j'arrive pas à l'attendre qu'ils me disent où il y en est dans le tracé, c'est quoi la date où ils vont publier. C'est le ministre Julien avec qui on travaille qui fait ça. Là. Et le premier ministre du Québec, peut-être qu'un autre premier ministre pourrait être différent, mais moi, j'ai pas cette attente-là qu'il aille dans le fin détail là-dessus.
Le résumé se fait bien. Là, le troisième lien, il sort à broussaille puis personne n'est content. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça arrive ça, c'est pas ça qu'ils veulent, puis de votre côté, vous le voulez pas à ce place-là non plus.
Je pensais que c'était à cause de la broussaille que tu disais ça.
Pas nécessairement.
Non, mais... Alors oui, c'est vrai que présentement, le tracé qui avait été choisi et proposé un des tracés, il ne convient pas. Mm-hmm. Le ministre Julien nous a dit, on travaille sur le tracé, on va vous revenir. Moi, je fais confiance au ministre Julien, on va attendre qu'il nous revienne.
Demain, vous rencontrez Stephen Blainey. Y a-tu moyen de s'entendre les deux rives sur un tracé idéal de troisième lien, puis après ça, de le pitcher dans le cours du premier ministre?
Bien, il y a moyen, sauf que Lévis, ce que Lévis souhaite, c'est ce que j'ai compris de M. Blainey, on ne s'est pas parlé de ça, c'est de l'amener à l'Est. Là, à l'Est, on se retrouve en dehors probablement de la ville de Québec. Là. Fait que c'est peut-être pas un mauvais tracé, mais nous autres, il faut qu'on ait une preuve que les gens de Beauport, de Charlebourg, ils gagnent.
Là. Ouais, mais là, vous êtes deux, là, vous êtes deux parlables. Là. Les guerres d'égo et le niaisage, c'est fini. Vous êtes capable de vous asseoir et d'essayer de trouver une ligne à quelque part qui va faire plaisir aux deux.
Il n'y avait pas de guerre d'égo avec M. Lawley.
Non. Avant vous, oui, il y en a eu.
OK, oui, peut-être, Gilles et moi, on s'est bien entendu, puis je suis sûr qu'on va bien s'entendre avec M. Blainey. Mm-hmm. Après ça, sa volonté de l'amener à l'Est, je ne la connais pas plus précisément que ce que je viens de dire. Là. Fait qu'après ça, nous, comme ville de Québec, moi, je vais défendre les citoyens de Québec, puis lui va défendre les citoyens de Lévis.
Oui, mais c'est pas ça que vous reprochez un peu au maire de Saint-Augustin de juste travailler pour les gens de sa population. Tout le monde travaille en vase clos, il n'y a rien qui s'améliore. Ouais.
Ben là, OK.
Je fais du coq à l'âne, mais c'est parce que je saisis l'opportunité.
Oui, c'est intéressant
là.
Ce que tu amènes. Ouais. C'est super intéressant. Ça ne veut pas dire que parce que sur le troisième lien, on n'a pas des intérêts divergents, qu'on ne travaille pas sur d'autres choses communes.
Parce que faire front commun, les deux maires sur les deux rives, pour négocier des choses avec le gouvernement du Canada...
Et pris en considération.
Puis pour avoir une vision peut-être un peu plus articulée de ce qu'on veut développer, ça ferait du bien à tout le monde, ça.
Oui, mais tu sais, il y a des choses sur lesquelles... Il y a des intérêts qui sont divergents. On a travaillé, M. Lawley et moi, puis je suis sûr qu'on va faire ça avec M. Blainey, sur le transport collectif, sur le coût de la passe commune, sur un paquet de projets à la communauté métropolitaine de Québec. Ça travaillait bien, là. Alors, on va faire la même chose avec M. Blainey. Vous me parlez de Saint-Augustin.
Vous avez envoyé le maire en punition, là?
Oui, mais le maire d'Ancienne Lorette, vous avez lu qu'il a commenté là-dessus, on travaille ensemble aussi, là. Mm-hmm. Monsieur, le maire de Saint-Augustin a fait des choix qui appartiennent, puis je le respecte, je respecte
Junot.
L'homme. Monsieur Junot, je respecte l'homme. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à collaborer. À partir du moment où on ne réussit pas à collaborer, ça donne quoi? On va continuer de se parler, on va continuer de regarder ce qu'on peut faire, mais à la communauté métropolitaine de Québec, j'amène des gens qui veulent collaborer.
C'est-tu parce que vous avez de la difficulté avec des gens qui sont drastiquement pas d'accord avec vous?
Non.
Non?
C'est pas personnel. J'ai jamais rien mené de personnel. Après ça, M. Junot gouverne sa barque comme il le pense le mieux. Je le respecte. Maintenant, si lui travaille de cette façon-là et qu'on ne trouve pas les voies de passage, bien c'est sûr que c'est plus dur de collaborer.
Une assermentation au Château-Frontenac, ça fait des maudites belles photos. C'était-tu le bon message envoyé pour un deuxième mandat?
C'est pas moi qui l'ai choisi.
C'est qui?
Bien, c'est la ville, c'est le protocole de la ville. Ils ont évalué 30 places, ils ont demandé des soumissions, ils ont fait un travail qui est le leur. Ils ont fait le bon travail. La dernière fois, c'était au manège militaire, je pense que de mémoire, il y a 4 ans. Alors, c'est eux autres qui choisissent en fonction des soumissions qu'ils ont. Le but, là, c'était pas d'amener quelque chose de faste, c'était de trouver quelque chose qui était central, qui permettait d'y accéder rapidement, puis de faire ça à la hauteur de la ville de Québec, c'est tout.
Avez-vous l'impression que ça a donné une drôle de perception aux cyniques de dire « Tabarnouche, il commence son deuxième mandat en se louant à salle de bal au Château Frontenac? »
Bien, alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont pensé ça.
Ça faisait des belles photos. Il y a du monde qui n'a même pas des belles photos de mariage comme vous avez une photo avec votre blonde au Château Frontenac.
Ah, je savais que c'est là que tu t'en allais. Tiens, on l'a pas vu venir.
Mais non,
t'en prévisible?
On l'a pas vu venir.
On parlera des photos de vacances tantôt.
Oui, c'est ça. OK, on va commencer par le Château Frontenac. C'est pas une décision du maire, là. La ville a des employés qui travaillent sur la période d'assermentation. La preuve, c'est que c'était même pas sûr que ça allait être moi qui étais maire. C'est pas à moi de décider ça, c'est le protocole qui l'a fait. Ça aurait été M. Lachance, ça aurait été M. Villeneuve, ça aurait été M. Hamad, ça aurait été la même cérémonie à la même place. Là. C'est pas un choix de dire hey, nous autres, on va faire ça là. C'est le protocole qui le fait en fonction de ses impératifs puis du travail qu'il a à faire pour la sermentation.
Il faut absolument prendre le temps de se parler du vieux Québec. Il y a une série d'articles et de reportages, puis il y a des résidents et des commerçants avec qui on a échangé qui commencent à voir.
Sont belles mes photos avec la blonde, avec ma blonde.
C'est des très belles photos. D'ailleurs, avant qu'on en mette sur ses réseaux sociaux, y a-tu comme une négociation ou une discussion où on échange sur
Oui.
Puis ça vous met-tu mal à l'aise quand t'as mis des photos de vos vacances sur les réseaux sociaux?
Non, mais je savais qu'elle faisait. Elle n'a pas fait ça en catimini sans moi. Mais oui, on a une discussion. Parce que moi, je fais pas ça.
Ouais.
OK? Mais en même temps, je vais t'expliquer la logique, puisque tu me poses la question. Être dans sa vie amoureuse avec un politicien, là, c'est toujours être dans des contraintes. Toujours, toujours, toujours dans des contraintes. À cause de la vie publique, à cause de la notoriété, à cause des contraintes d'horaire. C'est toujours, toujours, toujours ça. Fait que quand on en a discuté, moi, à un moment donné, j'ai fait... Je veux pas que ta vie soit juste des contraintes parce que tu es avec un politicien. Mm-hmm. Fait que fais ce que tu ferais dans ta vie normale. Puis moi, je l'assume. J'ai rien à cacher. En même temps, j'en ai pas fait la promotion pour mes raisons qui m'appartiennent, mais j'étais très à l'aise avec ce qu'elle a fait.
Elle trouve-tu ça rough, le côté réseau social, les réactions?
Tout le monde trouve ça rough. Puis oui, elle trouve ça rough.
Ouais.
Oui, parce que t'as des gens pour te planter parce que t'es avec un politicien. Être avec un politicien, là, dans les grands désagréments, c'est que tous les gens qui t'aiment pas décident de pas aimer non plus celle qui est avec toi. Mm-hmm. Comme si elle cautionnait tout du choix politique.
Puis qu'elle devait payer aussi les crédits.
Oui, exact.
Ben là, elle n'a toujours bien pas voté la chance.
Ben, elle n'a pas voté.
Elle n'habite pas à Québec.
Elle n'habite pas à Québec. Mais, non, mais il y a quelque chose de malsain, là, puisqu'on en parle. Il y a quelque chose de malsain. Hein? On peut-tu laisser vivre les gens? Mm. Que les gens m'attaquent, que les gens ne soient pas d'accord avec moi, que les gens me critiquent, ça fait partie de la vie politique. Mais après ça, les gens qui sont dans ma vie, mes amis, mon amoureuse, mes enfants, il ne faut pas les impliquer là-dedans, là. Il y a quelque chose qui n'a pas rapport. Alors, vous aimez la photo, vous pouvez la liker sur Instagram. Vous ne l'aimez pas, likez-la pas, puis suivez-la pas, ça vous appartient. Mais je pense que d'associer les gens avec leur conjoint, conjointe, en étant partie prenante de quelque chose qui est un objet politique, quelque chose qui ne marche pas. Là.
Je suis d'accord avec vous. Le Vieux-Québec, oui. C'est-tu le prochain Saint-Roch? Est-ce qu'on essaye de prévenir ce qui se passe présentement dans le Vieux-Québec?
À cause de l'itinérance?
Vandalisme, itinérance...
Consommation de drogue, c'est à la voie publique. Il y a une fille qui fume une pipe à crack un lundi à 21h le soir dans le Faubourg.
Oui.
Ça frappe. Il y a eu une agression à l'arme blanche il y a quelques jours. Il y a des gens qui vivent dans le secteur qui sont rendus stressés de voir que, justement, il y a des gestes de violence, d'intimidation dans des commerces chez des résidents. C'est comme
des
si
affaires
avait...
qu'on a commencé à entendre il y a 5-6 ans dans Saint-Roch.
Exactement. Puis là, soudainement, ça semble se déplacer puis ça semble être une dynamique vraiment différente que ce qu'on voit dans Saint-Roch.
C'est une dynamique différente. Je pense pas que ça se déplace au sens de que le phénomène s'élargisse. Ça, je suis
c'est
d'accord.
Ça s'étend, ça se déplace pas.
C'est pas des gens qui se déplacent. Ouais, ça s'étend, tu le dis bien, ça se déplace pas. Alors, l'enjeu, il est toujours le même. Il faut s'attaquer à l'itinérance visible et prendre soin des gens qui sont dans l'itinérance pour trouver une place pour qu'ils puissent être sécurisés et pas vivre dans la rue.
À Montréal, il y a certains organismes qui commencent à essayer de rattraper les gens avant qu'ils tombent dans la rue.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire maintenant dans la région de Québec?
Oui. Puis qu'on fait déjà. On le fait déjà avec le CIUS, on le fait déjà avec des organismes communautaires. Oui, la réponse est oui. Je ne pense pas que la solution soit d'ouvrir plus de refuges ou plus de halles de chaleur. Alors, il ne faut pas que les gens dorment dans la rue. Il faut être très soucieux de la bienveillance humaine. Cependant, la solution n'est pas de donner plus de place, de mettre un plaster à un problème. Il faut trouver des solutions permanentes, c'est-à-dire avoir plus de logements, faire en sorte qu'on s'occupe de ce monde-là. Et quand on le fait, il y a de la stabilité résidentielle qui est possible pour la très grande majorité d'entre eux.
Il y a à peu près un an de ça, on s'était parlé de Saint-Roch, du fait qu'on ne se sentait pas en sécurité, que moi, comme fille, je ne voulais pas aller dans Saint-Roch tout seul. Là, moi, ce que j'entends du Vieux-Québec, de la rue Saint-Jean, c'est qu'il n'y a pas de patrouille de policiers à pied, que ce sentiment d'insécurité-là, ils le vivent. Est-ce qu'on va tenter de réagir un peu plus rapidement pour essayer de colmater ça?
Bien, alors la réponse, c'est que les gens se sentent comme ça, je ne peux pas le contredire. Moi, je suis toujours là, par le biais que je suis à l'Hôtel de Ville. Je ne sens pas de sentiment d'insécurité. Là. On n'est pas dans ce niveau-là. Je comprends qu'il y a eu quelques actions qui ont créé une certaine appréhension, puis je le comprends. On va faire les mêmes actions qu'on fait déjà dans Saint-Roch. On va agir. On ne laissera pas traîner les choses. Là.
Avez-vous lu les textes sur le tramway de Besançon?
Oui, le 10 fois moins cher.
Oui, le 10 fois moins cher. Ouais. Parce qu'ils n'écoutent pas les maîtres de projet puis qu'ils sont capables d'économiser à plein d'endroits. Est-ce
14 fois moins cher.
Oui, 14 fois. Quand on fait la...
Tu veux bien me corriger, c'est 14.
Quand on fait la traduction des dollars, effectivement, on l'avait les fait hier, c'est 14 là, fois moins cher. Ça vous dit quoi, ça?
Bien, alors, quand le gouvernement du Québec a dit qu'il faut faire différemment la question de la gestion de projet, ils ont raison. Ils ont raison. Et nous, on ne peut pas décider de faire différemment si la loi ne nous permet pas de faire différemment. Alors maintenant, le gouvernement du Québec a entrepris de réformer certains processus. Parce que ce qu'on faisait, okay, juste pour l'expliquer en termes clairs, c'est de dire à quelqu'un, voici le projet qu'on veut faire, puis si tu finis en retard, tu as telle pénalité. Mm-hmm. Les personnes qui soumissionnent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent deux paires de bretelles, une paire de ceintures pour s'assurer qu'ils ne perdront pas de l'argent dans le projet. Donc, ils se mettent ce qu'on appelle des contingences qui font en sorte qu'ils se mettent bien des coussins pour être sûr de ne pas arriver en dessous. Ça coûte plus cher. C'est un des éléments.
Mm-hmm.
Travailler les projets différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu choisis un soumissionnaire, l'entreprise Denis Gravel Construction de Tramway Inc., puis tu leur dis, tu nous dis pas le prix de suite. Tu as été qualifié, maintenant on va travailler ensemble pour bâtir le meilleur projet au moins cher possible et tu participes à la construction de sorte que tu es connaissant des risques et tu vas nous dire, si vous prenez tel risque, ça va coûter plus cher. Alors ça, c'est la première des choses. Faut pas oublier ici que l'hiver nous coûte cher. L'arrêt des travaux, la saison hivernale qui permet pas de tout faire, ça nous coûte cher. La main d'œuvre coûte plus cher ici. La main-d'œuvre coûte plus cher ici qu'elle coûte en Europe. Mais c'est quand même vraiment problématique qu'il y ait des différences de coûts de cette ampleur-là.
C'est gigantesque, là.
C'est gigantesque. Mais c'est pas... Je suis allé au Havre dans une des missions. Ils construisaient une ligne de tramway en 2 ans.
Alors que nous, on n'est pas là partout.
On est dans des paradigmes complètement différents. Et oui, il faut apprendre des meilleurs et faire mieux.
Je prenais un exemple bien simple. Quand je vais magasiner un char, je ne connais pas ça. Fait que quand on me vend plein d'extras que je n'ai pas besoin, j'ai tendance à dire oui. Est-ce qu'une ville se fait emballer comme ça ou s'emballe parce que le projet va être beau, puis il va être chromé,
ben,
puis le monde va l'aimer, puis tout, puis tout?
Oui, mais je pense pas que... Je pense que les gens qui sont, mettons, les employés de la ville qui font ça, c'est des experts. Par contre... Ce qu'il faut faire en sorte, c'est que les politiques s'en mêlent pas trop pour eux se penser des experts et dire hey, moi, j'aimerais que les bancs soient chromés, qu'ils soient roses un peu, puis un petit peu de fuchsia ici. Ça, ça a été vécu à Ottawa, notamment sur la mise en service, puis ça a coûté cher, puis ça a créé des problèmes. Fait qu'il faut faire confiance aux experts, puis faire en sorte que les politiciens s'en mêlent pas. Parce que quand les politiciens s'en mêlent, ça crée des problèmes. Et souvent, ça rajoute des délais. Parce que le cahier est prêt, puis on se dit non, le politicien veut des changements. Oups! La soumission va coûter plus cher, oups, le travail va coûter plus cher, puis on s'embarque dans une cascade. Nous autres, ça ne sera pas ça.
Merci, M. le maire.
Merci. On se revoit bientôt. On se revoit après fête.
Après fête.
Joyeuse fête. Plein de questions. On va être prêts.
Ouais. Ah, mais joyeuse fête, j'ai déjà hâte.
Ben, joyeuse fête à vous aussi. Oui.
Il me restait des questions, mais je ne veux pas me battre avec votre équipe.
Oui, puis ils sont gros. Oh. Ils sont forts. Mais toi, tu as quelque chose que les autres n'ont pas, le mental.
Ah, la dureté du mental. Puis moi, je reste ici, vous autres, vous retournez dans le trafic. Fait que allez apprécier la fluidité de la circulation à Québec, chers amis.
Salut tout le monde. Joyeuse fête.
Il est 16h53. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Gravel. Dans le retour.